La vie de William Dewsbury, suite, chapitre XI 1658. William Dewsbury en Écosse, épître et preuve venant de faux frères, l'affaire John Perrault. Les travaux de William Dewsbury, auprès de restauration, de beaucoup renoncement à soi-même exigé des amis. William Dewsbury à une réunion dans le Walsh, trouble et traitement violent infligé aux amis. Il est emprisonné au château de York, avec 500 autres, où 5 meurent. Il est libéré et écrit des épîtres d'encouragement aux amis. D'après la date de la prochaine épître de William Dewsbury, nous le suivons jusqu'en Écosse. D'après les rares avis épars qui ont été conservés de ses travaux dans cette nation, il apparaît qu'ils furent éminemment bénis pour l'établissement religieux de nombreuses personnes, dans le cœur desquelles l'œuvre de préparation se poursuivait depuis plusieurs années. Lorsque les amis, en qualité de ministres, dirigèrent d'abord leurs pas parmi le peuple de cette nation, la parole prêchée fut vraiment une bonne nouvelle pour leurs âmes. Nous apprenons de John Barclay, dans ses mémoires des amis en Écosse, que dans le sud de l'Écosse comme dans le nord, il y avait des individus dont l'esprit était depuis des années las et lourdement chargé, sous le sentiment de leurs nombreux manquements, et qui pourtant croyaient qu'il était possible de connaître une manière de culte, de vie et de conduite plus purement spirituelle que celle à laquelle eux-mêmes, ou quiconque dont ils connaissaient la profession, était parvenu. Profondément accablés par la formalité, la superstition et le culte volontaire répandus autour d'eux, et sous lesquels les divers prédicateurs publics retenaient trop généralement leurs auditeurs, ces sérieux chercheurs s'étaient séparés des diverses congrégations du peuple, et enfin certains d'entre eux commencèrent à se réunir entre eux, attendant Dieu dans un saint silence et une humble crainte de l'âme, afin d'être rendu capable de s'approcher de lui dans un véritable culte spirituel. En ces occasions, ils étaient parfois rendus sensibles à la vertu vivifiante, à la puissance et à la vie du Saint-Esprit, qui permettait à certains d'entre eux de faire entendre les louanges du Tout-Puissant et, d'après une expérience intérieure de sa bonté, d'étendre, comme instrument, une main secourable à d'autres. À un peuple ainsi disposé, il semblait conforme à l'esprit du grand et bon berger d'étendre son regard miséricordieux. Et entre les années 1653 et 1658, lorsque William Dewsbury leur rendit sa première visite, les pas de nombreux messagers de l'Évangile furent tournés en cette direction. Nous apprenons encore dans les mémoires que les messages évangéliques de ceux-ci et d'autres témoins zélés, qui avaient déjà occupé le terrain, atteignirent la conscience de beaucoup de ceux qui les entendirent. Toutefois, en ce qui concerne Aberdeen et les environs, aucune adhésion ouverte aux doctrines du peuple appelé Quakers n'eut lieu avant la fin de l'année 1662, lorsque William Dewsbury fut attiré avec amour vers ces âmes préparées et haletantes pour leur proclamer l'année agréable du Seigneur, à savoir la délivrance de la servitude. Ainsi, l'œuvre remarquable de conviction, qui s'était secrètement poursuivie dans certains de leurs cœurs pendant plusieurs années, à travers de profonds conflits d'esprit, fut portée à un point tel qu'ils furent rendus disposés jusque dans toute chose à prendre chaque jour leur croix, quoiqu'à divers égards aussi amère que la mort, et à suivre la conduite du Christ par son esprit au-dedans d'eux, partout où il lui plairait de les mener. Voilà ce que l'on sait des travaux de William Dewsbury en ce qui concerne Aberdeen. Mais ce qui précède est daté de Leith, à une période antérieure, à savoir le 24 du 7e mois 1658, et se rapporte à sa première visite en Écosse, au sujet de laquelle je n'ai pu découvrir de détails dans aucune autre source que l'épître elle-même. Pour cette raison, et en raison de sa valeur intrinsèque, j'ai résolu de la soumettre au lecteur. La voici. Chers amis, au nom du Seigneur Jésus-Christ, marchez de sorte à régner sur tout ce qui est contraire à la lumière, afin que dans la lumière et la gloire de Dieu, vous resplendissiez tous, témoins vivants du nom du Dieu éternel, saint et pur, qui vous a regardé dans sa tendre amour, pour vous rassembler afin que vous teniez tête à toute tromperie, dans sa puissance éternelle. Bienheureux êtes-vous, vous qui êtes fidèles dans l'obéissance à la lumière du Christ, vous qui le suivez dans la croix et dans le chemin droit du renoncement à vous-même. Vous êtes mes frères et mes sœurs dans le Seigneur Jésus, notre capitaine. Il vous couronnera de sa puissante force pour tenir tête à toute tentation et le suivre dans la foi et la patience, jusqu'à ce que toute langue qui s'élève contre vous tombe en jugement, avec tous ceux qui trébuchent sur Jésus-Christ, notre lumière et notre vie, qui rassemblera à lui un grand peuple. Dans ce pays, beaucoup entreront, qui errent encore sur les montagnes, où ils ne trouvent aucun repos. Bienheureux êtes-vous tous qui demeurez et marchez fidèlement avec le Seigneur, lui qui vous a appelés et choisis pour être les prémices. Quoi que ce soit qui s'élève contre la lumière, au-dedans ou au-dehors, en veillant dans la lumière, vous le discernerez. Appuyez vos cœurs sur le Seigneur, en gardant ferme votre confiance en lui. Il vous délivrera de tout ce qui est contraire à la lumière, et vous fera vous réjouir dans la croix quotidienne, vous crucifiant au monde et le monde à vous. Il vous fera vous réjouir au-dessus du monde, et vous tiendrez au-dessus de lui, dans la puissance de Dieu, avec toute sa pompe et sa gloire, et le mal qui s'y trouve à sa louange et à sa gloire. Qu'il en soit ainsi de vous tous dans la grande puissance de Dieu, dans laquelle mon âme vous salue, vous qui marchez fidèlement et humblement devant le Seigneur, dans l'obéissance à son conseil. Chers agneaux, appelés à vous coucher dans l'enclosure du repos, en Christ notre vie, je vous supplie avec tendresse dans l'amour d'être fidèles à vous réunir ensemble au nom du Seigneur Jésus-Christ, et de veiller avec diligence à connaître votre propre mesure de grâce en Christ, à le sentir en vous pour juger vos pensées et toute vaine imagination, afin que vous régniez sur elle et que vous vous réjouissiez du rafraîchissement de sa présence. Et vous tous, prenez garde aux trop nombreuses paroles, qu'elles soient toujours peu nombreuses et qu'elles procèdent de l'esprit savoureux de vie en Christ. En lui, que la bénédiction du Seigneur repose sur vous tous à jamais, je vous y dis adieu avec moi dans l'amour éternel du Père en Christ. Amen. William Dewsbury. Que des copies de ceci soient soigneusement écrites et envoyées aux églises pour y être lues parmi elles quand elles sont réunies dans la crainte de Dieu. Une autre lettre de Lys adressée à Margaret Fell est la suivante. Dans la puissance et la vie éternelles en Christ, la lumière et la justice, au-dessus de tout, Dieu bénit à jamais. Dans sa puissance qui garde les fidèles, chère sœur, j'ai été et je suis rafraîchie dans mes labeurs, dont dans une certaine mesure, tu sais ce qu'ils sont, à cause de la semence. Demeure dans la puissance, dans laquelle le Seigneur t'a choisi pour porter son nom en justice. Ainsi le Dieu Tout-Puissant te garde, toi, tes tendres enfants et ta famille, comme un rafraîchissement pour l'Israël de Dieu. Ma chère sœur, j'ai souvent senti ton souci, portant le fardeau pour l'amour de la semence, et beaucoup pour la pauvre semence opprimée en Écosse, dont le souci a pesé lourdement sur moi. Mon tendre père, après 6 ans de voyage en Angleterre, m'a rendu libre de venir en Écosse, ce qui fut le 13 jour du 6e mois. À Berwick, j'ai laissé mon cheval, et Samuel Saunton a été poussé à venir avec moi. J'ai acheté des chaussures à Berwick, et je suis entré à pied en Écosse avec une grande joie. Le premier jour de voyage, j'ai rencontré des centaines de personnes. C'était le temps des moissons, et les gens dans les champs et sur les routes entendirent la vérité avec beaucoup de tendresse. Le 15, étant le premier jour de la semaine, j'étais à la réunion d'Édimbourg. Je suis resté pour 3 réunions, et Dieu s'est grandement manifesté pour sa propre gloire. Le 19 au jour, je me suis mis en route vers l'ouest. Le 22 au jour, étant le premier jour de la semaine, j'étais avec les amis à Batco à travers le pays jusqu'à la garnison d'Air. Le 29, je suis venu à la réunion des amis à Reds. Les amis, dans une certaine mesure, sont entrés dans la simplicité de la vérité. Puis j'ai voyagé vers Hamilton, Glasgow, Stirling et jusqu'au château de Bandalo. Dans les champs et sur les routes, plusieurs centaines ont entendu la parole de la vie éternelle, beaucoup étant très touchés là où j'ai été conduit. Le 12 du 7e mois, étant le premier jour, je suis retourné à Édimbourg, où j'ai eu beaucoup de réunions et un assez grand nombre sont venus. Ici, il n'y a eu jusqu'à présent aucune opposition, le Seigneur s'est beaucoup manifesté, beaucoup sont clairement convaincus de la vérité, car tant est résolu à suivre le Seigneur dans l'obéissance, il est du peuple baptisé. Chère sœur, en peu de temps, le Seigneur m'a conduit à pied sur quelques centaines de milles avec beaucoup de joie à cause de la semence. Je jette mon pain sur les eaux et je suis assurée que je le retrouverai au temps fixé. Que le Dieu éternel garde tous dans sa puissance et sa sagesse, chacun à sa place, à sa louange et à sa gloire. Amen à Dieu. Ton cher frère, William Dewsbury, d'après la date d'une autre de ses épîtres, nous apprenons que William Dewsbury était à Londres au 11e mois 1659. Cette année-là fut une année de cruelle persécution pour la Société des Amis, qui, alors, prenait une importance considérable, grâce aux ailes des nombreux ouvriers engagés à rendre témoignage à l'Évangile de la grâce de Dieu. L'audace avec laquelle ils affirmaient leur croyance particulière, ainsi que la puissance qui accompagnait leur prédication, contribuèrent grandement à accroître leur nombre, malgré leurs conditions souffrantes et les persécutions qui les attendaient. Il est toutefois manifeste, d'après certaines des épîtres de cet ami, tant anciennes que plus tardives, que tous ceux qui furent convaincus de la vérité ne demeurèrent pas fidèles à leur témoignage. Malgré l'adresse que William Dewsbury fit avec tant de sagesse à la Société des 1653, sur le sujet d'une discipline, aucun système régulier ne semble avoir été organisé avant l'année 1688. Cela fut alors accompli sous les efforts zélés, éclairés et judicieux de George Fox, qui avait un appel particulier à mener cette œuvre. Entre-temps, comme on l'a déjà rapporté, quelques tentatives furent faites pour répondre aux exigences qui survinrent, et il ressort d'une réponse que William Dewsbury adresse à un adversaire, qu'il avait combattu dans certains de ses écrits, que l'adresse en question fut ensuite suivie des faits, soit par la nomination régulière de surveillants, soit par l'exercice de cette charge. Il était toutefois trop demandé, sans quelque chose de plus qu'ordinaire pour l'expliquer, qu'une société aussi nombreuse et aussi étendue que l'étaient désormais les amis, conduisit ses affaires en tout avec harmonie, ou demeura entièrement à l'abri des incursions de cet esprit qui, par le moyen de ses agents, prend plaisir à semer la discorde entre frères. En conséquence, vers cette époque, un certain John Perrow devint l'auteur de beaucoup de confusion dans cette société, plus particulièrement parmi ceux qui, l'ayant récemment rejointe, étaient faibles dans la foi. Parmi ceux-là, je trouve le nom véritablement honorable de Thomas Elwood, et de son journal, on peut tirer sur le sujet des informations qu'il convient de faire précéder au récit de certains faits que William Dewsbury nous a laissés dans l'une de ses épîtres, relativement au rôle qu'il prit dans cette affaire. John Perrow se joignit au peuple appelé Quakers vers l'année 1658, et étant d'un esprit entreprenant, présomptueux et ce que l'on peut vraiment appeler fanatique, il s'arrogea bientôt la fonction ministérielle, et ayant une très haute opinion de lui-même, rien de moins ne lui convenait que de tenter la conversion du pape. Mais peu après son arrivée à Rome, il fut jeté à Bedlam, et son compagnon lui fut Love, comme George Fox écrit son nom à l'Inquisition. Le prétendu fou, quoique pas le meilleur homme, eut pourtant la meilleure chance, comme il s'avéra, car il vécut et réussit à revenir en Angleterre, tandis que l'autre mourut en prison, non sans des soupçons fondés d'avoir été assassiné. À son retour en Angleterre, Perrow, en amplifiant ses souffrances et en prenant l'apparence d'une grande sainteté, gagna si bien les sentiments tendres et compatissants des amis qu'il obtint dans leur affection et leur estime une place qu'il ne méritait nullement. Cela lui ouvrit la voie pour propager son erreur particulière, consistant à garder son chapeau pendant la prière, publique ou privée. Aussi improbable que cela puisse paraître aujourd'hui, beaucoup d'esprits sincères mordirent à l'hameçon, et une très grande confusion s'ensuivit. Elwood, avec toute la franchise d'un homme de réelle valeur, raconte son propre cas en reconnaissant pleinement son erreur, qu'il condamna publiquement. Commentaire de l'éditeur du site, Perrow plaidait que le fait d'ôter son chapeau était une forme d'observance extérieure et qu'à ce titre il fallait y renoncer. La société croyait que l'ôter avant la prière était un signe de respect et d'honneur envers Dieu, l'honneur que l'homme exigeait et que les Quakers refusaient de lui accorder. Dans toutes les autres sectes, les sermons étaient prêchés avec le chapeau du ministre sur la tête. Les Quakers inversèrent donc l'honneur rendu à l'homme par le chapeau, pour que l'honneur du chapeau ne soit rendu qu'à Dieu. Perrow écrivit plus tard deux pamphlets très critiques contre les Quakers et fut pris à falsifier un document qu'il prétendait provenir d'Edward Burroughs. Plus tard, Perrow alla en Amérique, devint magistrat et persécuta sévèrement les Quakers parce qu'ils refusaient de prêter serment. Le problème de Perrow semble avoir commencé lorsque il s'est arrogé lui-même la fonction ministérielle. On se demande pourquoi un membre spirituellement mûr ne s'est pas simplement opposé à lui en le reprenant de rester encore dans la chair. Si quelqu'un revendiquait l'autorité de prêcher, il semble qu'il n'existait aucune méthode formelle pour le soumettre à approbation. Une fois accepté comme qualifié pour prêcher, il était en mesure d'égarer un groupe, comme cela arriva. Dans une épître adressée par William Dewsbury à tous les fidèles en Christ, datée de 1663, il décrit ainsi le progrès de cette erreur, à mesure qu'elle prenait possession de l'esprit de ceux qui furent les chefs de sa propagation. Dans ce qui éprouve et pèse vos propres esprits, dans le calme et la simplicité de cœur, examinez et goûtez de quel esprit sont ceux qui viennent parmi vous aujourd'hui. Car beaucoup s'avancent avec nous quant à la reconnaissance de la vérité dans leur jugement, et règlent l'homme extérieur par certains jets. Certains d'entre eux ont senti le coup du jugement du Seigneur pour le péché, ce qui les a conduits à abandonner certaines choses auxquelles ils prenaient autrefois plaisir. Et avec une certaine mesure de zèle, ils ont rendu témoignage à la lumière, endurant coups et emprisonnements, tant dans cette nation que, pour certains, au-delà des mers. Tant qu'ils demeuraient dans la crainte du Seigneur, lui, pour l'amour de son nom, les délivrait des tempêtes diverses sous lesquelles ils souffraient. Mais faute de vigilance, le mystère d'iniquité a agi et les a tirés de la lumière vers l'orgueil de leur cœur, pour se parer des bijoux et des dons que l'Esprit de Dieu leur avait donnés lorsqu'ils étaient humiliés devant lui. Mais s'étant éloignés du jugement rédempteur de Dieu, la blessure mortelle fut de nouveau guérie, et au lieu de rendre gloire à Dieu pour leur délivrance, ils prirent, en ce temps de repos, leur essor comme au jour du sabbat, sur les montagnes des hautes imaginations, et ils offrirent des sacrifices sur les hauts lieux. S'étant détournés de la lumière, ils ne se soucièrent ni de la gloire de Dieu ni du bien de son peuple. De tels hommes devinrent pour leurs frères une source de grande peine et de préoccupation, et après avoir réussi à ébranler l'esprit de beaucoup, ils se détachèrent du corps, entraînant leurs partisans à leur suite. Plus loin, dans la même épître, l'auteur écrit ce qui suit. Combien mes entrailles se sont émues pour la présentation de John Perrow, en faisant ce qui pouvait être fait pour l'attirer et le séparer de cet esprit qui a produit l'écrit propageant le fait de garder le chapeau pendant la prière et qui jetait une ombre sur ceux qui invoquaient le nom du Seigneur la tête découverte. Mais après beaucoup de conseils donnés dans une tendre affection, afin d'empêcher cet écrit de se répandre, il ne voulut pas se séparer de l'esprit qu'il avait produit. Ainsi j'ai dégagé ma conscience dans la parole du Seigneur. Et maintenant, dans ma liberté en Dieu, je déclare aux enfants de Sion quel est le jugement qui s'est levé dans mon cœur à ce sujet. John, si tu propages ce que tu as écrit dans ce papier, tu blesseras plus de cœur et causeras plus de troubles d'esprit parmi le peuple du Seigneur au cœur tendre que lorsque la tentation entra en James Naylor. Il a beaucoup souffert, mais le Seigneur l'a restauré par une vraie repentance. Pour ce qui me concerne, ce n'est pas ma nature de me trouver en lutte avec toi ou avec quiconque sur la terre. Mais ayant déclaré la vérité à ton sujet, je retournerai à mon repos dans le Seigneur, et que chaque naissance vive toute la durée de son jour, et que le temps manifeste ce qui est né de Dieu. Car l'esprit qui se dresse dans une lutte de soi-même se fatiguera, mourra et finira dans la terre. Et cela arrivera certainement à tous ceux qui n'attendent pas avec diligence dans la lumière, ne jugent pas les élans de leur esprit, se rendant dans un vrai renoncement à soi, pour être conduits sur les traces où les troupeaux des compagnons du Christ prennent plaisir à marcher, se servant les uns les autres dans l'amour, et chacun avec l'esprit d'amour et de douceur, cherchant à restaurer l'autre de ce que certains ont fait par la violence de la tentation ou la faiblesse. William Dewsbury, telle fut la conduite aimable et pleine de discernement que William Dewsbury poursuivit, dans la sagesse qui lui avait été donnée pour gouverner l'Église de Dieu, et telle l'autorité inoffensive et humble qu'il exerça. Bien qu'en cette période, les épreuves et afflictions aient durement éprouvé la société de l'intérieur, comme les persécutions de l'extérieur, il était administré de temps à autre une mesure de foi à des esprits fermes, nombreux parmi les amis, ouvriers et souffrants de ce temps-là, qui les rendait capables de faire face à toute occasion où ils étaient appelés à l'exercer. Dans cette foi qui est la victoire des saints, le même auteur, dans son adresse, poursuit en leur donnant la parole d'encouragement. Chers frères, quoique la colère contre ce qui résiste à l'œuvre de notre Dieu soit grande, et que cette colère agisse ouvertement et mystérieusement pour charger les innocents de fardeaux et ajouter des afflictions aux affligés, dans la parole du Seigneur qui s'élève dans mon cœur, je déclare que cela ne feront que se lasser, et que toutes leurs espérances leur feront défaut, et que leurs attentes seront réduites à néant. Eux qui guettent le mal, ce qui vous concerne, vous qui aimez le Seigneur plus que votre vie, et prenez plaisir à attendre pour sentir sa puissance. Ce sujet ne doit pas être clos sans présenter au lecteur quelques informations supplémentaires relatives à la manière dont une très grande proportion de ces personnes furent dégagées, elles qui avaient ainsi été prises dans le piège de l'oiseleur. Une réunion fut fixée à Londres par une ouverture divine dans le mouvement de vie chez cet éminent serviteur et ministre du Christ, George Fox, pour restaurer et ramener ce qui était sorti de la vérité et de la sainte unité des amis en elle par les moyens et le ministère de John Perrow. Cette réunion, ou plutôt ces réunions, durèrent des journées entières, et certains qui s'étaient écartés de la vérité et s'étaient heurtés aux amis furent atteints par la puissance du Seigneur, laquelle vint merveilleusement sur eux, et les amena à se condamner eux-mêmes et à déchirer en pièces leurs écrits de controverse. George Fox, qui rapporte ce fait, eut plusieurs réunions avec eux, et la puissance éternelle du Seigneur, comme il le déclare, domina sur tout, et plaça le jugement sur la tête de cet esprit dans lequel il s'était égaré. Certains reconnurent que ses amis étaient plus justes qu'eux, et que si leurs amis n'avaient pas tenu bon, ils auraient été perdus et seraient tombés dans la perdition. Et ainsi la puissance du Seigneur se manifesta merveilleusement et vint sur tous. Thomas Elwood, lui-même d'abord trompé par Perrow, écrit de cette manière dans le mouvement de vie, les eaux de guérison furent remuées, et beaucoup par leur vertu et leur puissance furent rétablis dans la santé, et en vérité peu furent perdus. Et quoique la plupart de ceux qui revinrent ainsi fussent de ceux qui, comme moi, avaient déjà renoncé à l'erreur et abandonné la pratique, nous trouvâmes pourtant sensiblement que, dans le cas d'un scandale public, abandonner sans confesser n'était pas suffisant, mais qu'une reconnaissance ouverte des fautes publiques, ainsi que leur abandon, était nécessaire pour obtenir une pleine rémission. Outre une diminution du nombre dans la société, due à une cause telle que celle qui vient d'être décrite, il ne sera pas difficile de croire que, si la persécution empêchait dans une certaine mesure son accroissement, il y avait aussi des personnes pour lesquelles le chemin se révéla trop étroit, parce qu'il impliquait des sacrifices plus grands que ceux auxquels elles pouvaient se soumettre. Sans un don total de l'âme, de telles personnes ne seraient pas sans ressembler aux enfants d'Éphraïm, qui, portant des arcs, tournèrent le dos au jour de la bataille. Quoi que l'on pût dire qu'elles avaient les armes, la connaissance et la profession, il leur manquait cette foi vivante qui seule pouvait les fortifier de courage et d'endurance. Elles étaient donc incapables de soutenir le choc de cette épreuve ardente qui attendait inévitablement les fidèles serviteurs du Christ. Comme notre Seigneur dit à ses disciples immédiats, « Si quelqu'un vient à moi et n'est pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, oui, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. » Il en allait ainsi des amis en ce temps-là, il ne pouvait y avoir aucune réserve. Ceux qui n'étaient pas prêts à se séparer de tout, jusqu'au renoncement aux jouissances légitimes, pour le témoignage d'une conscience pure, dans laquelle la foi est conservée, ne pouvaient demeurer dans l'épreuve ardente de ce temps, mais devait reculer. William Dewsbury n'était pas compté parmi ces défaillants. Il était prêt en tout temps à endurer la dureté comme un bon soldat de Jésus-Christ. Elle était en effet l'empreinte profonde et durable sur son esprit de cette douce assurance de l'amour de Dieu en Jésus-Christ pour son âme, dont le Seigneur avait bien voulu le favoriser avant qu'il ne s'engage dans l'œuvre du ministère. Et tels étaient les témoignages rendus de la puissance céleste qui l'accompagnait, lui et les amis, que selon un témoignage qu'il rendit sur son lit de mort, il ne fit jamais ensuite preuve de lâcheté, mais entra joyeusement en prison comme dans des palais, disant à ses ennemis de le garder là aussi long. En prison, il chantait des louanges à son Dieu, et estimait les verrous et les serrures mis sur lui comme des bijoux. Il dit, « Et au nom du Dieu éternel, j'ai toujours eu la victoire, car il ne pouvait me garder plus longtemps que le temps déterminé par mon Dieu. » Ainsi, lorsqu'il était libre, il était un ouvrier infatigable dans la cause qu'il avait embrassée avec tant de sincérité et de zèle. En une occasion, vers cette époque, nous trouvons dans la collection des souffrances des amis de Bess qu'il était à une réunion dans le Warwickshire, dans la maison d'un certain William Reynolds, laquelle fut troublée par un constable accompagné et assisté par une foule grossière, armée d'épées et de bâtons, qui tirèrent les amis hors de la maison et, après en avoir battu et maltraité quelques-uns, se mirent à briser les vitres de la maison en présence du constable. Mais c'étaient là les occurrences quotidiennes de ces temps sans loi et intolérants. Vers la fin de l'année 1660, on retrouve la trace de William Dewsbury à la prison d'Ousbridge, dans la ville de York, où il fut incarcéré avec 11 autres, parmi lesquels je trouve le nom de William Tuke, pour avoir refusé, sans doute, de prêter les serments d'allégeance et de suprématie. On peut remarquer ici que la pratique de ce temps, par laquelle le parti dominant imposait ses serments au peuple, et ainsi, au gré des changements fréquents de gouvernement, les faisait jurer puis rompre leurs serments, était une preuve du bien fondé du refus des amis, indépendamment des fortes objections qu'ils avaient, sur des bases scripturaires à tout serment, comme illégitime sous la dispensation de l'Évangile. Car la vérité les avait rendus libres de la nécessité des serments. Ils étaient un peuple droit, et à ce titre, pour raison de conscience, ils se conduisaient tant en privé qu'à l'égard du gouvernement, dans la mesure où les lois des hommes n'empiétaient pas sur les obligations suprêmes du devoir religieux. Et leurs paroles de promesse leur étaient plus obligatoires que les serments de la plupart des autres gens. De la prison d'Ousbridge, il fut peu après transféré à la tour de York. De là, il fut conduit au château, où, d'après la date de l'une de ses épîtres, je le trouve au 3e mois 1661. Bess, dont ces détails sont tirés, nous informe que le nombre total d'amis emprisonnés en même temps au château de York et dans d'autres prisons du comté, durant les 2 mois dont il écrivait, était de 536, dont 505 dans le château même, où 5 moururent à cause de l'insalubrité des lieux. L'éditeur ne se propose pas ici de s'étendre sur ces faits lamentables, bien qu'il puisse aisément produire une masse de preuves illustrant la cruauté et l'injustice infligées aux premiers Quakers en général pendant cette période. Mais une lettre originale d'un ami, adressée à George Fox, étant parvenue entre ses mains, datée du lieu d'affectation fréquente de William Dewsbury, le cachot de la prison de Warwick, un extrait pourra montrer que d'autres endroits n'étaient pas en reste de York quant à la dureté des conditions imposées à ce peuple souffrant. « Cher George Fox, mon amour s'écoule vers toi dans la vie pure, sainte et immortelle, et les amis ici t'adressent leur cher amour, et notre amour va à tous les amis fidèles à Londres et autour de Londres. Nous sommes ici, nombreux emprisonnés à Warwick, au nombre d'environ 120, autant que nous pouvons l'estimer, et parmi nous se trouvent quelques femmes amies. Nos persécuteurs continuent encore, car plusieurs autres ont été conduits en prison ce matin. » Nous n'avons pas connaissance certaine du nombre de prisonniers à Coventry et en un autre endroit de ce comté, mais nous avons entendu dire qu'il y en a plus d'une centaine, en plus de nous, à Warwick. Ici, il nous est interdit de nous rendre visite les uns aux autres. Certains de nos amis ont été, il y a peu de temps, mis dans une cave étroite où ils n'avaient pas la place de s'étendre côte à côte. L'un d'eux faillit mourir faute d'espace et d'air, et on le fit sortir très affaibli. Il est encore malade et faible. Cette cruauté des persécuteurs a provoqué une grande clameur contre eux chez beaucoup de gens à Warwick. Depuis lors, ils ont transféré les prisonniers dans un lieu plus convenable, mais ils y sont tenus enfermés, et bien souvent il est difficile d'y faire parvenir pour nous, si nombreux, les choses nécessaires. Mais parfois il en va autrement. William Dewsbury 6 du 12 mois, 1660. William Dewsbury ne demeura pas longtemps en détention après 1660. Car dans le post-scriptum d'une adresse, tout à fait digne d'un ministre chrétien daté du 20, qu'il écrivit et parvint à faire présenter au roi Charles, récemment monté sur le trône, il informe le roi que, avant que le document puisse lui être envoyé par une main privée et sûre, il avait été remis en liberté avec quelques autres de ses frères, par la récente proclamation. Ce sont là ses propres mots. L'acte qui vient d'être mentionné semble avoir eu pour origine le fait que Margaret Fell, épouse du juge Fell de Swarthmoral, se présenta 2 fois devant le roi afin de lui exposer les pénibles souffrances des amis. C'était à peu près au moment du soulèvement des hommes de la Ve Monarchie, aux vues absurdes desquelles les amis, à leur grand détriment, furent injustement soupçonnés d'avoir participé. Les plaidoyers de Margaret Fell furent renforcés par un acte de justice rendu à la société par les hommes de la Ve Monarchie, attestant que les Quakers n'avaient pris aucune part à la rébellion et n'en avaient eu aucune connaissance avant leur condamnation au tribunal. George Fox, avec plusieurs amis éminents, publia aussi à cette époque une déclaration contre toute sédition, complot et violence, affirmant que les amis étaient un peuple inoffensif, dont les principes s'opposaient aux guerres et aux combats. Cet acte opportun de Fox semble avoir eu un poids considérable auprès du roi et du conseil pour obtenir le soulagement souhaité. L'adresse de William Dewsbury au roi, ainsi que celle à Cromwell, se trouve dans l'appendice. Toutes deux sont recommandées à l'attention du lecteur, comme des exemples de l'autorité spirituelle avec laquelle Dewsbury s'exprimait, ainsi que de sa mesure merveilleuse de Christ. Il a déjà été indiqué que, pendant sa détention à York, William Dewsbury écrivit plusieurs épîtres d'encouragement aux amis dispersés, les exhortant à la fermeté et à l'attachement fidèle aux témoignages qu'ils avaient reçus de portée, malgré les épreuves et souffrances auxquelles ils étaient soumis. Parmi celles-ci, la suivante servira d'exemple de son esprit à ce moment-là. « Chers frères et sœurs dans l'Église des premiers-nés, de la semence royale du Dieu Très-Haut, que la grâce, la miséricorde et la paix soient multipliées en vous et parmi vous, à qui Dieu a révélé ce qu'il a déterminé et qu'il manifeste maintenant, afin que chacun dans la lumière et la vie de Dieu puisse se tenir seul, hors des pièges et au-dessus des pièges de ce que Dieu met de côté comme les roseaux brisés d'Égypte, afin que l'on se confie en son propre nom et que son bras puissant soit seul vu et senti, conduisant et préservant son peuple. À vous tous, chers et choisis vases de Dieu, que vous soyez enchaînés ou libres, voici la parole du Dieu éternel. Dans la lumière et la vie éternelle, fixez vos pensées, relevez la tête et soyez forts dans le nom du Seigneur. Et ne craignez pas la colère de l'homme, car elle est limitée et se tournera à la louange de Dieu pour toujours. Lui qui compose aujourd'hui ses joyaux et rassemble son blé dans son grenier et les brebis de son pâturage dans la sécurité de sa puissance, afin de les conduire et de les sauver par son bras étendu, pour la confusion des païens qui ne connaissent pas Dieu. Chers amis, saignez les reins de votre entendement, et dans la foi et la patience de Jésus, tenez-vous immobiles dans la lumière, et voyez aujourd'hui le salut de Dieu, lui qui a fait fondre comme de la cire les montagnes et les collines qui s'opposaient à son glorieux lever, et les a fait disparaître comme le fruit né avant terme. Il a partagé les eaux et les a amoncelées, et il a ouvert à travers elles un chemin pour que les rachetés y marchent à son service jusqu'au lieu où il les a appelés. Il a rendu les faibles aussi forts que David, devant qui sont tombés les incirconcis qui résistaient au Dieu d'Israël. Chers amis, que l'amour de Dieu vous presse de vous confier en lui, et sentez la naissance de la semence de Dieu portée au-dessus de tout, pour manger et se nourrir du pain de vie, afin que, hors du temps et du lieu et au-dessus de tout ce qui est visible, vous puissiez vivre et vous réjouir au-dessus de toutes les duretés qui sembleraient apparaître et au-dessus de toute colère qui se lève. Vous tous, gardez la parole de la foi dans la puissance de Dieu. Les montagnes tomberont devant vous de plus en plus, et vous foulerez l'orgueil de la génération perverse et hardie, dans la patience et la domination de Dieu à jamais. Que les forts portent le fardeau des faibles, afin que tous, dans l'unité de l'esprit, dans la puissance de l'amour de Dieu, grandissent en un saint sacerdoce, offrant âme et corps comme un sacrifice vivant, dans une obéissance fidèle à faire la volonté de Dieu. En son nom, il vous est déclaré, chers amis, qu'il est vain pour l'homme de s'efforcer de limiter le Saint d'Israël, ou son esprit dans son peuple. Car si ceux qui cherchent à vous opprimer et à vous détruire, vous qui aimez Dieu plus que toute chose au monde, oui, plus que la vie elle-même, étaient comme le sable du rivage de la mer, ne craignez pas, consolez-vous dans la lumière de sa face. Car il se lèvera, et dispersera dans sa colère tous ceux qui résistent à son esprit comme la poussière devant le vent, et il établira sa justice dans la terre pour toujours. Ô Sion, ton Dieu règne, tu verras tes ennemis venir se courbant jusqu'à la plante de tes pieds. Ta renommée se répandra de plus en plus sur la terre, tes feuilles guériront les nations qui marcheront dans ta lumière, et tu seras connu sur toute la terre comme la cité du Dieu Très-Haut, oui, comme la semence juste, quand le visage de tes ennemis sera couvert de honte, la bouche du Seigneur des armées l'a dit. Que ceci soit répandu parmi les amis avec intelligence dans la crainte de Dieu. William Dewsbury, Tour de York, 19 du 12 mois, 1660. Ainsi ce serviteur consacré du Christ, lui-même alors prisonnier pour son témoignage, fut-il rendu capable, dans l'esprit de puissance, d'amour et de bon sens, d'encourager le troupeau souffrant. C'était une époque où l'on peut dire avec beaucoup de vérité que les amis étaient tenus pour à peine mieux que des brebis destinées à l'abattoir, et où leurs ennemis semblaient prêts à les engloutir rapidement. nous qui vivons en ces terres d'aisance, avons peu de conception de l'étendue et de l'extrême de leur souffrance, nous avons besoin d'être avertis contre l'indifférence. Nous ne devrions jamais oublier que c'est par l'endurance de telles injustices que celles qui viennent d'être rapportées, mais à un degré bien plus grand, que notre actuelle mesure de liberté religieuse a été acquise. Commentaire des éditeurs du site. Les Quakers du XIe siècle sont reconnaissants d'être libres de persécution, mais ils ne l'étaient que parce qu'ils n'étaient pas dans l'esprit, suffisamment pour être dirigés par le Christ en pensée, en parole et en acte, et ainsi ils n'étaient pas envoyés par le Christ dans les maisons de la chrétienté pour avertir leurs occupants de leur faux salut. Se croyant sauvés par la grâce, au lieu d'être sauvés de tous leurs péchés, l'esprit charnel étant détruit, ils n'étaient pas persécutés. S'ils avaient été dans le même esprit que les apôtres et les premiers Quakers, ils n'auraient pas eu la liberté de religion. Alors comme aujourd'hui, ceux qui sont nés de la chair persécuteront toujours ceux qui sont nés de l'esprit, et une telle persécution inclurait le recours aux autorités civiles pour emprisonner ceux qui troublaient leurs réunions. Chapitre 1660. Épître William Dewsbury, peu connu dans son caractère domestique, il est appréhendé dans une auberge à Warwick pour avoir rendu grâce après le souper, est emprisonné, mais peu après libéré, arrive à Londres et est emprisonné à Newgate. On pense que les quatre épîtres suivantes illustrant d'une belle manière le soin que William Dewsbury exerçait sur le troupeau, il ne sera besoin d'aucune excuse pour les introduire ici. Elles montrent comment il s'efforçait de les édifier dans notre très sainte foi, la foi de l'Évangile de Jésus-Christ, qui est selon la piété, qu'elle en était le fondement, qu'il cherchait à poser pour ses œuvres de justice qui seules sont agréables au Seigneur, détournant puissamment en même temps l'esprit de ses lecteurs vers la source éternelle et infaillible de tout secours, de toute délivrance et de toute consolation salvatrice, à l'heure du conflit intérieur et de la tentation. Elles sont présentées aux lecteurs avec la conviction qu'elles ne seront pas seulement intéressantes comme documents illustratifs, mais qu'elles sont éminemment propres à consoler, aider et édifier beaucoup de personnes dans les limites de notre propre société. Il est aussi possible qu'elle se révèle fortifiante pour bien des voyageurs qui, à tous égards, ne marchent pas avec nous, mais qui n'en souffrent pas moins le jour de la détresse de Jacob. Elles peuvent être un moyen de l'encourager à persévérer dans cet acte de lutte qui, à la fin, lui vaudra un nom nouveau, celui d'Israël. La première dans l'ordre, qui porte principalement sur le sujet de l'exercice des dons spirituels dans l'Église, est datée du 12 mois, 1660. Chers amis et frères, appelés et choisis de Dieu pour l'attendre dans sa lumière, que chacun en particulier sente la puissance et la vie de Dieu vous exercer à son service, quoi qu'il vous appelle à faire. Quand le Seigneur remplit le cœur de l'un de vous de sa présence, et que sa vie se meut en vous, n'éteignez pas l'esprit, il m'est ordonné de vous le recommander, qui que vous soyez, du plus petit au plus avancé. Tous, chers amis, attendez d'être gardés dans le lien de l'esprit, obéissant à ses mouvements, cessez et vous arrêtez quand il ne se meut pas, autant que commencez tout exercice quand il se meut. Et chers et tendres petits-enfants, aussi bien que vous, hommes forts, retenez le pur astérisque en toutes choses, et que rien ne vous resserre lorsque Dieu agit. Toi, petit-enfant fidèle, quand bien même tu battras des ailes et balbutieras quelques mots dans la crainte du Seigneur, ils sont reçus. Que tous ceux qui sont forts servent les faibles en les fortifiant, et qu'ils attendent avec sagesse pour laisser place au mouvement de l'esprit en eux, afin qu'il ait le temps de produire ce que Dieu a donné. Chers frères, nourrissez les agneaux, et déliez la langue des muets, afin que des louanges s'élèvent en vous et parmi vous tous à la gloire de Dieu, afin qu'en lui vous soyez les uns pour les autres une source de vie, dans la puissance de l'amour sans fin de Dieu, dans lequel le Seigneur Dieu vous garde tous. William Dewsbury astérisque la sagesse qui vient d'en haut est d'abord pure. Le sens de Dewsbury est sans doute préserver une conscience pure par l'obéissance à ce qui, dans l'âme, conduit à la pureté de vie, qui n'est pas de l'homme, mais d'en haut, car la désobéissance cause l'étroitesse ou l'enfermement dans la chair. C'est ce contre quoi l'auteur met l'Église en garde. Chers amis fidèles en Dieu, vous qui, dans vos voyages, avez connu le jour où rien ne vous était cher, pas même la vie, afin de jouir de la lumière de la face de Dieu, qu'il a maintenant manifestée dans l'alliance éternelle de sa lumière en Christ, et qui maintenant contraint à se tenir hors de portée, au-dessus et par-delà toutes les langues flatteuses, et toutes les menaces et la colère des hommes. Cela se manifestera de plus en plus avant que ce jour d'épreuve soit terminé, et quelle que soit la colère que le Seigneur permet de s'élever dans les puissances de la terre, sans qu'il la meuve, que nul ne cherche à l'arrêter. Que Dieu ait la gloire, la colère de l'homme tourne à sa louange, et le reste, il le retiendra, tandis que les petits-enfants royaux, dans la douceur et la patience, demeurent immobiles et rendent gloire à Dieu par une obéissance fidèle, au prix de la vie jusqu'à la mort, si le Seigneur l'exige. Il a béni le travail de tous ceux qu'il a appelés dans la vigne, et mon cœur s'est élargi pour eux, dans la force de la vie que j'ai reçue du Père. Oh ! Sentez-moi, car je suis avec vous, rempli de joie dans le Seigneur, que sa naissance royale soit produite et que le captif soit mis en liberté, que la langue des muets soit déliée et que la puissance vivante de Dieu soit relevée, pour offrir des louanges vivantes sur le saint autel de Dieu, dans les assemblées de ses saints. Levez la tête, réjouissez-vous dans la force du Seigneur, en ce jour où il rassemble le bon fruit mûr dans la vigne du Seigneur. Maintenant les vignes abondent en vertu, chargées de grappes des raisins les plus purs, à pleine maturité, qui laissent couler abondamment le vin, renouvelé dans le royaume du Père. Oh, remplissez vos coupes, ne soyez pas resserrés dans vos esprits pour recevoir de la plénitude de Dieu, en qui je suis contraint de vous dire, dans la lumière, buvez, buvez abondamment, que la soif de la naissance immortelle s'élance avec ardeur, dans la lumière, pour puiser toujours davantage de la vie infinie, afin qu'elle vous saisisse dans sa puissance. Afin que, dans sa force, vos cœurs soient affranchis au-dessus de tout ce qui est en bas, et que votre esprit, dans la lumière de la vie, soit élevé dans l'harmonie céleste pour louer et glorifier le nom du Seigneur, dans l'unité éternelle, à l'étonnement de tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, dont le cœur faillira devant la vie de Dieu. Cela avec tout ce qu'il donne, garde tous ceux qui demeurent dans l'humilité de sa crainte, de sorte que ni les hauteurs ni les profondeurs, ni la tribulation ni la détresse, ni la persécution ni la famine, ni la nudité, ni le péril, ni l'épée, ni la vie ni la mort, ni les choses présentes ni les choses à venir, ne peuvent jamais séparer la naissance royale de son obéissance fidèle à Christ Jésus, la lumière. Et demeurez au-delà du temps et du lieu, et au-dessus de toutes les jouissances créées, dans la puissance sans limite, pour vous guider, que vous soyez dans les liens ou hors des liens, afin que vos paroles soient peu nombreuses et savoureuses en tout temps et communiquent la grâce à ceux qui les entendent. Et soyez tendrement affectionnés les uns envers les autres dans l'amour pur et chaste de Dieu, tous pour vous coucher ensemble dans l'unité éternelle dans le Dieu très haut, un dans la plénitude, béni à jamais à Dieu. Votre frère, William Dewsbury de la Tour de York, le 25 du premier mois, 1661, la troisième épître est ainsi précédée. Que ceci circule parmi tous les affligés et les blessés en esprit. Ayez soin de le leur envoyer. Cher enfant, qui crie, par-delà le monde entier et au-delà de tous les plaisirs, la pompe et la vanité qui s'y trouvent pour jouir de la lumière et de la face de Dieu, ne crains pas et ne te décourage pas à cause des assauts violents de l'ennemi qui cherche à t'entraîner dans les raisonnements charnels de ton esprit et à y allumer un feu pour toi-même et qui te fait marcher à la lumière des étincelles que tu as allumées. Et cela, tu le reçois de la main du Seigneur, en t'éloignant de son conseil, tu te couches dans la douleur. Peu connaissent ta grande détresse, mais le Seigneur la connaît, et ceux qui ont marché dans les mêmes sentiers. Ô chère âme affligée, qui vit dans le profond sentiment de l'action du malin dans ton esprit, et qui souvent est prête à dire « Jamais nul n'a été comme moi, ni aucune douleur comme ma douleur », et dans cette langueur, ce désespoir, ce deuil de ton âme, toutes choses te deviennent amères comme les eaux de Marat. Ainsi es-tu chassé de toute consolation, comme un enfant sans père, comme une veuve désolée sans mari, et comme un étranger que nul œil, selon ton sentiment, ne plaint, disant parfois en ton cœur, dans l'ardeur de la tentation et dans le feu que tu as allumé, « Oh, que n'ai-je été quelque créature que ce soit, plutôt que ce que je suis !» Ou bien si telle était la volonté du Seigneur, qu'il abrège mes jours, afin que je ne sois plus longtemps sur la terre à pécher contre lui. Car dans ton propre sens et ton propre sentiment, toi qui marches dans les étincelles que tu as allumées, dans des raisonnements charnels, tu ne discernes que la colère de toutes parts, l'horreur, la misère et la détresse et de grande langueur, criant secrètement dans ton cœur, « Oh, que je fusse seul dans le désert ou dans une caverne ou une tanière de la terre, afin de ne plus jamais voir ni entendre aucun des fils des hommes, mais de me retirer en secret, et même rugir et pleurer tous mes jours jusqu'à ce que je meure. » Oh, toi, enfant du matin du jour pur et éternel du Dieu d'Israël, n'écoute plus l'ennemi, qui a dit que personne n'a cheminé là où tu chemines, ni bu de la coupe que tu bois. C'est un menteur qui rôde pour détruire ton âme précieuse. Par la parole du Seigneur Dieu, je te déclare, j'ai bu la même coupe avec mes amis fidèles qui sont nés de la semence royale. Chacun selon sa mesure a cheminé dans la même voie et a enduré les mêmes tentations et a marché à la lumière des mêmes étincelles et s'est couché dans la douleur, dans le sentiment de la même misère que celle sous laquelle tu gémis en ce jour. Ne prête plus l'oreille à l'ennemi ni aux pensées de ton cœur. Lève-toi, lève-toi dans la lumière de l'Alliance et affermis ton cœur. Et le Seigneur Dieu abattra l'ennemi de ta paix, détruira les raisonnements charnels de ton esprit, et éteindra le feu que tu as allumé. Il te délivrera de la fosse horrible, et posera tes pieds sur le rocher des siècles. Tu fouleras l'ennemi de ton âme, dans le sentiment sensible des entrailles de l'amour du Père, qui se manifestera en toi comme un père pour l'orphelin, et comme un mari pour cette veuve en deuil, et comme une consolation pour ce petit enfant immortel qui gémissait en toi, dans la droiture de ton cœur, de faire la volonté du Dieu vivant. Ainsi, dans la puissance de sa force, affermit ton cœur et foule aux pieds tous doutes, craintes, pensées de désespoir, questionnements, raisonnements, réflexions, imaginations et consultations. Lève-toi au-dessus de tout cela dans la lumière de Christ. Il te conduira dans la maison du festin des délices de notre Dieu, où tu t'assieras avec moi et tous les rachetés de mon Père, qui sont nés de la semence immortelle, et ont passé par de grandes tribulations, et ont lavé nos vêtements et les ont rendus blancs dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi nous nous tenons maintenant devant le trône de Dieu, le louant jour et nuit dans son saint temple. Et telle sera la part de ta coupe si tu écoutes avec diligence le conseil du Seigneur qui t'appelle à te confier en lui. Il t'embrassera dans le bras de son amour et tu louerais son nom pour toujours. Que Dieu Tout-Puissant, dans sa lumière et sa vie, relève ton âme et affermisse ton cœur dans son conseil pour attendre fermement sa puissance afin qu'elle te conduise dans la croix hors de toute incrédulité et te fasse te coucher en repos dans l'obéissance à sa volonté. Là, tu boiras la coupe du salut de Dieu pour toujours. Adieu. De l'Esprit du Seigneur, William Dewsbury est mis au château de York, le 23 du 3 mois, 1661. Il serait agréable à nos sentiments naturels de pouvoir contempler le caractère d'un homme tel que William Dewsbury, dans d'autres circonstances que celles où nous l'avons ainsi trouvé. Nous avons été informés incidemment que son domicile était à Wakefield, qu'il était marié et qu'il était béni d'une famille d'enfants. À chacune de ces occasions où il lui est permis d'échapper des mains de ses persécuteurs et de jouir de nouveau de sa liberté, l'esprit se transporte involontairement vers les scènes de la vie domestique, disposé à participer à cette joie que toutes les parties doivent ressentir lors d'un événement si heureux. Il nous serait encore intéressant de contempler ce serviteur et ministre zélé de Christ, comme Paul le fabricant de tentes, occupé à exercer son métier, et de pouvoir dire quel fut son succès et jusqu'à quel point le Seigneur le bénit dans ses affaires extérieures, selon la promesse gracieuse qui lui avait été faite au moment où il commençait sa vie. Mais bien qu'il n'y ait aucune raison de douter de la fidélité du Seigneur, telle était la dévotion de son serviteur à la cause de la vérité, au témoignage de Jésus, qu'il ne fait que peu ou point mention de ces choses, à tel point que nous ne savons comment un homme si totalement privé qu'il l'était de l'occasion de s'enrichir par ses propres efforts dans les affaires a été préservé de voir sa femme et sa famille réduite à la pauvreté et à la détresse. On ne nous dit même pas qu'à sa libération de l'emprisonnement à York, il visita sa maison, bien qu'il soit très probable que ce fût le cas. Les esprits des amis, en ce temps-là, étaient si entièrement absorbés par la poursuite de l'unique grand objet qui se trouvait devant eux, que les affaires du monde semblent n'avoir eu auprès d'eux que fort peu de place. Ils sentaient et voyaient que le temps était court, et que la figure de ce monde passe. Ainsi, ils étaient sans inquiétude. Ceux qui avaient des femmes étaient comme s'ils n'en avaient point, ceux qui pleuraient comme s'ils ne pleuraient point, ceux qui se réjouissaient comme s'ils ne se réjouissaient point, ceux qui achetaient comme s'ils ne possédaient point. Ils usaient de ce monde sans en abuser. Un seul document, toutefois, est parvenu jusqu'à nous depuis que les lignes ci-dessus ont été écrites, qui offre, en quelques mots, une illustration frappante des remarques précédentes concernant William Dewsbury. En date du 10 du 4 mois de cette année, il demande à sa correspondante Margaret Fell, une mère en Israël, d'écrire à mes tendres enfants et ma famille. Il ajoute « Dans la vie de mon Dieu, je les ai abandonnés, avec ma propre vie quand il la demandera, en libre sacrifice, c'est dans sa volonté que cela est offert, pour qu'il fasse ce qui est bon à ses yeux, éditeur. » On peut aussi ajouter la belle phrase suivante, qui clôt l'une de ses épîtres vers cette période. Veillez les uns sur les autres d'un œil simple, vous édifiant les uns les autres dans la sainte foi, ouvrant vos cœurs dans le libre esprit de Dieu à ceux qui sont dans le besoin, afin que vous portiez l'image de votre Père céleste, qui soulage les affamés, allège ceux qui sont chargés, et réjouit les siens en les rafraîchissant au temps du besoin, donnant libéralement et sans reproche. Qu'il en soit ainsi pour vous, au nom du Seigneur, dit votre frère et compagnon dans le Seigneur Jésus-Christ. Adieu. Dans de tels exemples de dévouement que celui de William Dewsbury et de nombre des premiers amis, et d'autres serviteurs de Christ, nous sommes vivement rappelés aux paroles de notre Seigneur à ses disciples. « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. » Et il n'y a aucune raison de douter qu'une mesure de soutien vivant soit souvent, dans une gracieuse condescendance, accordée dans de telles circonstances, au point même de rendre la créature, pour un temps, indifférente et inattentive au corps et à ses divers besoins. C'est vers le commencement du 4 mois, 1661, que William Dewsbury fut libéré du château de York, comme cela a été dit, par proclamation de Charles Yee, grâce à l'intervention de George Whitehead, le porte-parole quake de plus en plus influent qui plaida auprès des rois et des parlements. Aussi ce mois, nous le rencontrons dans le Bedfordshire, à Buckland's Park, la demeure de James Nagill, qui, avec le juge Crute, avait déjà été convaincu de la vérité par son puissant ministère. Ce furent ces deux hommes puissants auxquels Francis Ellington fait allusion dans sa lettre, qui, avec leur famille, avaient ainsi été frappés par lui. Entre cette visite et sa présence à Londres, où il fut détenu 4 mois à Newgate, nous le trouvons souffrant avec d'autres amis à Warwick pour avoir rendu grâce après le souper dans une auberge, ce qui fut appelé prêcher dans un conventicule. Cet acte de prêcher, dans certaines circonstances, venait d'être déclaré illégal par le gouvernement. En l'occurrence, les amis furent conduits devant un magistrat dans une auberge, qui leur proposa les serments, et parce qu'ils refusaient de jurer par scrupule de conscience, ils furent envoyés en prison sous sentence de promunir, où, honte à dire, certains d'entre eux furent détenus pendant une période allant jusqu'à 10 ans, et ne furent jamais traduits devant aucun autre tribunal. Tel était l'exercice du pouvoir arbitraire, sous lequel les amis souffrirent si cruellement, et pourtant avec tant de patience. Il ressort du récit que Bess donne de la circonstance que c'était vers le 8e mois de l'année que cela eut lieu, et comme, dans le même mois, Dewsbury date une épître de la prison de Newgate à Londres, il est évident qu'il recouvra sa liberté à Warwick et poursuivit assez directement son voyage vers cette ville. Chapitre XI 1661. Acte contre les conventicules, sous lequel les amis souffrirent le bannissement épître d'encouragement, William Dewsbury est emprisonné au château de York, épître général à l'Église. Comment et dans quelles circonstances particulières, ce doux et constant souffrant en vint à être jeté à Newgate, je n'ai pu le découvrir. Mais c'est cette année-là que l'acte cruel et intolérant contre les conventicules, conçu comme un instrument de persécution contre les amis, entra pour la première fois en vigueur. Par cet acte, il fut décrété que si une personne refusait de prêter serment lorsque la loi l'exige, ou soutenait que la prestation de tout serment est illégale, ou si les personnes appelées Quakers se réunissaient pour un exercice religieux après le 24 mars 1661, et qu'elles en fussent convaincues, elles encouraient pour la première infraction une amende de 5 livres, pour la seconde de 10 livres à recouvrer par saisie, et faute de bien permettant cette saisie l'emprisonnement pour la première infraction. Tels furent les actes par lesquels on tenta d'écraser la vérité bénie en ces jours-là, et sous la mairie d'un certain Richard Brown, dont les traits dominants étaient l'orgueil, l'intolérance et la cruauté, où il semble avoir pris plaisir car dissoul, il commettrait des cruautés avec un visage souriant, le gouvernement trouva à Londres un exécutant convenable de cette loi nouvelle et barbare, dont on verra plus tard quelques conséquences. Je suppose toutefois que c'est à la suite d'une première infraction, celle de s'être réuni pour le culte religieux contrairement à cet acte que Dewsbury, avec une multitude d'autres, fut jeté à Newgate. Parmi les épîtres qu'il écrivit pendant qu'il y était enfermé, pour l'édification et l'encouragement de l'Église et de personnes particulières en diverses circonstances, se trouve la suivante, « À mes chers frères souffrants et compagnons, dans les tribulations et le royaume de patience en Christ Jésus. En lui veillez et priez, et croyez en son nom afin que vous gardiez la parole de sa patience et que, dans la volonté de Dieu, vous vous couchiez paisiblement dans vos souffrances présentes pour la parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, lui qui compte les jours de vos souffrances, et quand elles seront accomplies, il défendra la cause de son peuple au jour où il se révélera dans des flammes de feu, exerçant la vengeance sur tous ceux qui ne le connaissent pas et n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors votre innocence, avec tous les élus, sera manifestée aux yeux de tous les peuples, et vous brillerez comme les étoiles du matin dans la puissance de Dieu, pour éclairer les peuples des nations par l'éclat de la gloire de Dieu qui reposera sur vous, en vue du rassemblement des frères venus de loin et des sœurs des extrémités de la terre, qui béniront le nom du Seigneur pour vous qui persévérez fidèlement jusqu'à la fin, la couronne de gloire reposera sur vous à jamais. Que le Dieu éternel, dans sa puissance éternelle, vous garde dans la vie profonde de son Fils dans l'unité, afin d'achever votre témoignage à sa gloire. Adieu William Dewsbury est mis dans la prison de Newgate à Londres le 13 jour du 12 mois 1661 PS. Chers agneaux, demeurez dans l'unité, dans la vie et la puissance de Dieu, et que vos paroles soient peu nombreuses. Nous avons aussi de sa plume, durant cet emprisonnement, l'allocution animée suivante à ses amis souffrants. Chers amis, que tous, selon leur mesure, demeurent en Dieu, afin que dans la puissance et la vie sans limite de son royaume, vous teniez ferme, de sorte à garder votre domination dans son autorité céleste en ces jours d'épreuve, où le mari est appelé à quitter la femme, et la femme le mari, les parents les enfants et les enfants les parents, et d'autres jouissances créées, pour le témoignage du nom du Seigneur. Vous toutes, familles de Dieu, qui êtes ou serez appelées à porter votre témoignage, estimez la miséricorde du Seigneur, qui vous a fait ses joyaux choisis et les prémices parmi beaucoup de frères, pour compléter la mesure des souffrances qui restent encore. Au nom et dans la puissance du Seigneur Jésus, levez-vous, que vous soyez mari, femme, parent ou enfant enchaîné ou libre, et prenez pour vous l'instrument tranchant du battage, qui est la puissance de Dieu, afin de battre intérieurement toutes les montagnes de pensée, de crainte ou d'incrédulité, les images des difficultés, et tout désir et toute imagination qui voudrait vous détourner d'un repos paisible en Dieu. au nom du Seigneur, je vous l'impose, soyez vaillants pour votre liberté, et avec l'instrument puissant de Dieu, battez et abattez les montagnes comme de la balle et de la poussière. Battez la tête du grand dragon rouge, l'antique serpent, le diable, ne l'épargnez point, et ne craignez pas de l'affronter, car puissant est le Seigneur qui vous a appelé à le vaincre. Tenez donc sa tête sous vos pieds, avec l'instrument du battage, abattez et maintenez dessous tout ce qui voudrait vous troubler ou vous détourner de votre repos. Ainsi, dans la paix en Christ, vous pourrez tous demeurer dans une pure résignation à la volonté du Père. Afin que, dans la demeure de la paix de son royaume, vous régniez dans sa domination au-dessus, par-dessus et au sommet de tout ce qui est au-dessous de la lumière. Ainsi votre joie coulera comme un fleuve, et votre triomphe et votre domination seront dans l'autorité de Dieu, au-dessus de toutes les montagnes de ce monde, au-dedans et au-dehors, pour régner sur la montagne de la sainte vie avec Christ. Dans l'esprit humble et la sainte crainte, admirez et faites retentir le cantique nouveau avec triomphe sur le diable et ses anges et l'accusateur des frères, que vous verrez précipité, et vous le foulerez, vous l'écraserez sous vos pieds, ainsi que tous ceux qui voudraient se joindre à lui, avec l'instrument tranchant du battage, la puissance mighty de Dieu, que vous avez reçue en Christ la lumière. En toute chose que vous faites les uns pour les autres, que l'amour abonde dans la vie innocente, faisant à autrui ce que vous voudriez qu'on vous fît devant Dieu. Vous qui êtes serviteurs dans des familles, et qui êtes dans les souffrances, je vous l'impose, soyez fidèles, afin que la bonne odeur de Dieu se trouve parmi vous, à la louange du Seigneur. Vous qui êtes hors des liens, selon ce que la sagesse de Dieu vous conduit à faire, prêtez assistance de toute manière, portant les fardeaux les uns des autres pour accomplir la loi de Christ, qui prend pour lui sa grande puissance pour régner à jamais. Que la force même du Dieu puissant soit avec vous, et relevez tous la tête. Tenez-vous dans son autorité et gardez la parole de sa patience, afin d'achever votre témoignage à la louange et à la gloire de son nom, au-dessus de tout béni à jamais. À sa domination il n'y a point de fin, dans laquelle vous, chers agneaux, pouvez me sentir et me lire dans la vie cachée au monde, mais connue de vous dans le secret de Dieu, où sont notre joie éternelle et notre triomphe. Quoi qu'il advienne de l'homme extérieur, telle est la volonté de Dieu, à Dieu, oui, à Dieu, au nom du Seigneur. William Dewsbury, émis dans la prison de Newgate, le 3 au jour du premier mois, 1661, deux à quelques exceptions près concernant certains faits isolés, tout ce que l'on sait des 25 dernières années de la vie de William Dewsbury pourrait tenir en peu de mots, et il en sera nécessairement ainsi pour des portions considérables. Il fut délivré de la prison de Newgate à Londres au début de l'année 1662, puis prit le chemin de son domicile, où il est probable qu'il demeura quelques mois. Mais Bess nous apprend que la persécution l'y poursuivit aussi. Il dit que le 29 du 5e mois de cette année-là, il fut pris dans sa propre maison à Durtin, dans le West Riding du Yorkshire, et incarcéré au château de York, son ancien séjour, comme meneur et prédicateur parmi les Quakers. Une lettre de sa main, datée du château de York, le 3 du 8e mois, déclare qu'il y a plus de 100 amis, ses compagnons de captivité, qu'ils se réunissent quotidiennement pour attendre et adorer Dieu Tout-Puissant, et que sa présence couvre leurs assemblées, pour leur grand réconfort et à l'étonnement de leurs ennemis, éditeurs. Là, il ne demeura pas oisif, mais continua encore à visiter l'Église par ses épîtres. Parmi celles qu'il écrivit durant cet emprisonnement à York, la suivante est une que je ne me sentirais pas excusée de retenir au lecteur. Elle est adressée ainsi. La parole du Seigneur à sa cité bien-aimée, la nouvelle Jérusalem, venue de Dieu, revêtue de l'excellence de la gloire de son amour, et qui est l'épouse la femme de l'agneau, dans l'effusion des tendres entrailles compatissantes du Seigneur Jésus à tous les affligés de Sion, et au peuple affligé et désolé, qui attend sa venue comme l'aurore, et n'a de satisfaction en rien sinon dans la jouissance de sa douce et consolante présence. Ô Jérusalem, toi bien-aimée parmi les peuples, devenue la belle épouse, la femme de l'agneau, oh, comme il t'a cherché au jour de ton divorce, quand tu pleurais dans le désert stérile comme une veuve désolée qui n'avait personne pour la consoler, alors tes plus grands deuils et tes plus grands brisements de cœur étaient ton plus grand réconfort. Plus tes larmes se répandaient faute de lui, plus grande était ta satisfaction. Oh, les jours pénibles que tu as eus sur la terre, parce que ton âme languissante ne savait où rencontrer ton bien-aimé, ni comment marcher sur les traces du troupeau de tes compagnons, eux qui étaient consolés par sa présence, tandis que ton âme en manquait. Alors, sans que tu le saches, il était près de toi, vivifiant les désirs qui allaient vers son nom. Au temps favorable, il envoya ce qu'il avait ordonné pour te déclarer la gloire de son amour, dans la lumière de sa propre vie, par laquelle il t'a couverte en ce jour comme d'un vêtement de noces, et en elle tu paraissais belle à ses yeux et agréable en sa présence. Pour toi, ô Jérusalem, cité du Dieu vivant, qu'a-t-on enduré? Combien d'agneaux innocents ont souffert pour t'apporter la bonne nouvelle de celui que ton âme désirait ardemment? Il est difficile de l'exprimer. Comment, dans l'autorité de Dieu, Les jeunes gens ont couru çà et là sur la terre, prêts à dépenser et à être dépensés dans tous les services de l'amour, pour te persuader d'abandonner tout ce qui avait enlacé ton esprit et t'avait empêché de jouir de la vie innocente de ton bien-aimé. Tes hommes puissants, avec beaucoup des fils et des filles de gloire, ont scellé leur témoignage vivant de leur sang, dans la patience et les souffrances de l'agneau de Dieu, afin que tu sois touché par l'excellence de la gloire de celui que ton âme désire. Maintenant le Seigneur Dieu exige de chaque fils et fille en particulier de Sion de veiller et de prier afin que nul n'entre en tentation, et que tous ceux qui ont quelques taches sur leurs vêtements viennent à la fontaine ouverte pour Juda et Jérusalem, pour s'y laver, qui est l'amour de Dieu brisant les cœurs, manifesté dans la lumière de son alliance, et scellé à l'âme dans le sang de Jésus. Ô venez, venez, hors de toutes vos pensées, désirs, doutes et incrédulités, qui vous détourneraient de la jouissance de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Que nul ne demeure loin à cause de sa petitesse, de sa boiterie, de sa cécité, de sa faiblesse ou de ses infirmités, vous qui ne pouvez vivre en paix jusqu'à ce que vous soyez guéris par le sang de l'agneau. Levez-vous, levez-vous, peuple accablé par la nécessité, dans la lumière du Seigneur. Abandonnez-vous à l'esprit de vie qui attire, dans la lumière de Jésus-Christ. Il vous portera, vous qui ne pouvez marcher, dans les bras de ses compassions, il fera marcher les boiteux, et vous qui sentez votre cécité recouvrerez la vue. Oui, il vous guérira de toutes vos infirmités, vous qui attendez dans la lumière d'être dirigé et conduit comme un petit enfant par l'esprit lavant et sanctifiant du Seigneur Jésus, lui qui est devenu un mari pour la veuve désolée, un réparateur des brèches et un restaurateur des lieux dévastés, en qui les orphelins ont trouvé miséricorde en ce jour, pour l'amour de son nom. Oh, que dirais-je de l'amour inexprimable de Dieu en Christ Jésus, l'époux de l'épouse, au fil du jour glorieux, lisez, et sentez dans les goûts profonds de l'amour insondable, et vous, servante de gloire, buvez de l'océan inépuisable qui, dans la lumière, déborde sur toute opposition. C'est le Fils de l'amour du Père qui a été un homme de douleur et habitué à la souffrance. Il a été blessé pour nos transgressions, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris, et cela est l'œuvre du Seigneur. Que toutes les couronnes soient jetées à terre devant lui, lui seul aura la gloire, car en dehors de lui il n'y en a point d'autre. Donc, dans la mesure de lui, que chaque fils, chaque fille et chaque serviteur de Dieu veille et écoute diligemment son conseil. Et quoi que l'homme naturel incline le plus à faire, lorsque la tentation vous assaille, jugez-vous vous-même, levez les yeux vers le Seigneur, et résistez au diable avec hardiesse et le premier assaut, et le Seigneur Dieu vous donnera domination sur eux, et le lien de l'iniquité n'aura pas de pouvoir sur vous. Dans sa sainte autorité, que chacun se tienne en domination sur la tête du premier homme, avec toute son excellence et sa gloire, afin que dans la liberté parfaite chaque individu en particulier règne selon la mesure de la lumière sur toute pensée et tout désir contraire à la volonté de Dieu, afin que dans sa volonté éternelle vous filles et filles du trésor vous demeuriez tous dans la sainte foi, qui vous donnera une certitude au-delà de la vue, et vous armera contre tous les traits enflammés du diable. Vous briserez Satan sous vos pieds, et vous vaincrez dans la domination triomphante, par le sang de l'agneau et par la parole de votre témoignage, et vous boirez continuellement des fleuves de délices, la présence du Seigneur Jésus, notre lumière, notre vie et notre justice pour toujours. Car il est devenu notre époux, et nous sommes comme l'épouse de son sein, dans la joie de son amour glorieux. Que les affligés de Sion se réjouissent, que les accablés parmi le peuple soient dans la joie, et qu'ils craignent le Seigneur. Que nul qui désire le salut dans la droiture du cœur, ne dise « Le Seigneur ne tient pas compte de moi, car de tout ce dont vous avez faim et soif dans sa vie, vous en êtes l'héritier ». Et le Seigneur rassasira votre faim par ses rafraîchissements, pour l'amour de son nom. Telle est la portion de ceux qui sont les plus petits à leurs propres yeux parmi le peuple, le Seigneur l'a dit. Vous tous, habitants de la cité du grand Dieu, que le Seigneur a fait prospérer dans votre témoignage vivant, dans ce à quoi il vous a appelé, béni soit le Seigneur Dieu pour vous, qui conservez le sentiment de votre néant en vous-même, et devenez ainsi pauvre avec les plus pauvres, et faible avec les plus faibles, et ne donnez vraiment à vous-même aucune réputation mais vous humiliez jusqu'à la croix, et ne servez pas vous-même mais Dieu et son peuple avec tous ses dons et ornements dont il vous apparaît. À cause du parfum de cet ongle que vous. Ô vos travaux, labeurs et souffrances fermes, vaillants et infatigables pour le Seigneur élargissent les cœurs de son peuple en Alléluia et en haute louange dans les saintes assemblées de ses saints. Vous savez que votre récompense est avec vous, et malheur à ceux qui trament du mal contre vous, que le Seigneur a béni. Ô enfants de Sion, du plus petit au plus grand, aimez le Seigneur Jésus-Christ, qu'aucune pensée du cœur n'ait le pouvoir de vous tirer hors de la lumière, de la vie et de l'amour du Seigneur Jésus. Que le jour de la résurrection se lève sur vous, lui qui mettra vos âmes dans l'amour parfait, au-dessus de toute infidélité et incrédulité. Buvez, buvez, buvez jusqu'à pleine satisfaction de vos âmes, de la coupe de son salut, car elle est librement tendue à tous ceux qui l'aiment, qui ont soif de ses miséricordes, et qui piétinent et foulant aux pieds l'Esprit qui œuvre par lui-même, de sorte que tout est lié dans le silence et maintenu dans la mort, ce qui voudrait se mouvoir dans quelque exercice pour prononcer des paroles à la légère devant le Seigneur. Mais dans la résurrection, la lumière, la puissance, la vie et la naissance innocente entrent dans le royaume et règnent dans sa domination. Oh ! Ici, mes chers amis, consolons et réconfortons ensemble nos âmes, car voici notre bien-aimé, nous l'avons attendu, et maintenant il est venu avec puissance et grande gloire pour délivrer ses captifs et les établir dans sa liberté glorieuse, où le malin ne prévaudra pas contre eux, et pour unir à lui l'âme qu'il a attendue comme l'aurore. Tous, dans l'union du mariage, sentez sa puissance vous conduire dans la croix quotidienne abondant en vous, et vous faire tenir au-dessus de tout ce qui voudrait vous retirer de la douce unité qui se trouve sur les traces du troupeau de ses compagnons qui marchent dans la lumière. Réveillez le don de Dieu en vous, en toute obéissance fidèle. Lorsque vos cœurs sont remplis de la puissance céleste du Seigneur, brisés dans le sentiment des victoires de sa vie, émus dans la force impérieuse de celle-ci, dans quelque exercice au sein de vos familles ou dans les assemblées de son peuple, n'éteignez pas l'Esprit du Seigneur, mais obéissez et demeurez dans les bornes d'un cœur brisé et d'un esprit contrit, sacrifice qui est agréable en sa présence. Sentez tous l'amour de Dieu élargir vos cœurs les uns envers les autres, afin que les forts portent les fardeaux des faibles, et que, dans la vie pure de l'amour, tous croissiez comme des plantes fécondes dans la vigne que la droite de Dieu a plantée. Quant à notre petite sœur, dispersée parmi les peuples des nations, qui n'a point de sein de consolation, ses citernes crevassées lui ont manqué. Que ferons-nous pour elle en ce jour qui est venu sur nous ? On parlera pour elle, bien qu'à présent elle ne puisse s'approcher, mais qu'elle pleure de loin et crie en secret, faute de jouir du Dieu de notre salut. Que vos entrailles s'ouvrent pour elle, et que vos cœurs soupirent vers le Seigneur, afin qu'il scelle son conseil en elle et lui fasse marcher avec nous dans la lumière du Seigneur, avec nous qu'il a suscité pour être les prémices parmi beaucoup de frères, afin de porter son glorieux témoignage au-dessus des têtes des enfants des hommes et au-dessus de toute leur colère, eux qui s'opposent à l'apparition de Dieu, lui qui les fera se courber devant sa gloire, au jour où il justifiera l'innocence de son peuple bien-aimé. Ce ne sera ni par l'épée, ni par la lance, ni par le bras de la chair, mais par le souffle de sa bouche qu'il frappera le cœur de ceux qui ne le connaissent pas, et par l'éclat de sa venue, et il répandra sa renommée sur toutes les nations, pour rassembler nos frères de loin et nos sœurs des extrémités de la terre. Oui, les puissants se courberont sous son sceptre, et les nations sauvées marcheront dans sa lumière, avec nous, qu'il a rendus aussi chers à lui-même que la prunelle de son œil. Quand une femme oublierait l'enfant qu'elle allait, le Seigneur, lui, n'oubliera aucun de ceux qui le craignent. Mais il les conduira à travers toute tribulation, avec joie dans sa puissance céleste, jusqu'à ce que nous ayons achevé notre course avec allégresse, à la gloire de son nom pour toujours. Voici la part du lot de ton héritage, toi belle épouse, femme de l'agneau, contre qui toute langue qui se lève sera confondue en jugement, et les armes forgées contre toi ne prospéreront pas. Car le Seigneur t'a faite pierre pesante pour les nations, et la louange de toute la terre. Les désirs des peuples se porteront vers le Dieu très haut, qui demeure au milieu de toi, qui a déployé sur toi sa bannière d'amour, et a détourné de toi la fureur de sa colère. Toi, qui aimes la lumière, et qui baignes ton âme dans l'océan de ses miséricordes inexprimables, tu ne manqueras plus jamais des sources fraîches de la vie. Le Seigneur te gardera dans la sécurité de sa puissance, et les portes de l'enfer ne prévaudront contre aucun des fils et des filles qui marchent dans la lumière de ta cité, ô Jérusalem, en qui il n'y a plus de malédiction. Mais le trône de Dieu et de l'agneau est en toi, et ses serviteurs te servent, et ils contemplent sa face, et son nom est écrit sur leur front. Il n'y a pas de nuit là, ni besoin de lampe, ni de la lumière du soleil, car le Seigneur Dieu leur donne la lumière, et il règne à toujours, ainsi que le Seigneur l'a dit par ton frère et compagnon dans la tribulation et le royaume de patience en le Seigneur Jésus. William Dewsbury rédigé au château de York, le 19 du premier mois, 1663. Suite. Le but de ce site web est de montrer comment être libéré du péché en bénéficiant de la puissance transformatrice de Dieu par la croix, laquelle conduit à l'union avec Dieu dans son royaume.